Corps,
amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Kaléidoscope. Vous écoutez Calibre. Donc Calibre, c'est une libre antenne tous les jeudis de 20h à 21h. Radio Kaléidoscope, 97 FM et partout ailleurs sur Internet.
Et ce soir, pour vous concocter cette petite émission, en technique, il y a Noémie, Émilie avec son mouchoir sur le nez et Maud qui vous répondra au téléphone. Et au micro, Emma et Marina.
Voilà. Alors, simplement pour faire un petit rappel, Calibre, c'est une émission de libre antenne sur, vous l'avez entendu pendant le jingle, les sujets de corps, amour, sexualité, globalement.
Ce qui fait le mot « K ».
Tout à fait, oui. Oui. Donc CAS, c'est bien les initiales. On s'est quand même creusé la tête hein, pour trouver ce nom d'émission. Ça fait beaucoup de remue-ménage pendant les réunions. Bon, voilà. Du coup, on a trouvé ce petit jeu de mots que nous, on aime bien. Mais en tout cas, voilà, c'est une libre antenne sans tabou ni jugement, comme c'est dit dans le jingle. Et vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 pour passer des coups de gueule ou bien nous raconter quelque chose qui vous tient à cœur, etc., sur les sujets de relations, de corps,
d'amour,
de sexualité, etc., etc.
Alors, et même les questions à la con.
Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas de questions connes, finalement.
Finalement. On écoute un petit morceau de musique, on se retrouve tout à l'heure.
Oui, donc c'est moi qui l'annonce après.
Oui.
Oui, d'accord. La première, donc c'est la reina de la anarcumbia, la muy muy.
Más mala que Bush. Te crees la mujer.
toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Vous écoutez Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions d'amour, de corps, de sexualité. C'était chouette cette petite musique. Merci à l'équipe technique de nous avoir choisi ces petites musiques un peu estivales comme ça, n'est-ce pas ? Et alors, justement, ce soir c'est peut-être un peu notre dernière émission de l'année, peut-être jeudi prochain, mais d'ailleurs on voulait vous dire qu'on n'était pas sûr qu'on pourrait l'assurer. Alors bon, au cas où il y aura une rediff, hein. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, bon, voilà, on avait un peu envie de fêter la fin de cette deuxième saison de Calibre. Et pour ça, on avait envie de... Nous, on s'est dit qu'on allait aller boire des coups ce soir en ville pour fêter ça. Et on s'est dit, tiens, si on invitait nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent en direct de Grenoble ou de l'agglomération. Donc voilà, ce soir, là, après l'émission, à 9h30, on va à l'ouest.
C'est un bar.
Oui, bon, voilà, on s'en fiche, on n'a pas spécialement envie de faire de la pub pour ce bar, mais c'est pour vous dire où on sera, quoi. On sera dans ce bar-là, qui est donc dans le quartier des Halles Sainte-Claire. Donc, vous voyez, il y a les Halles Sainte-Claire et il y a ce bar, il est à côté, quoi. Et on sera là, et vous pourrez nous reconnaître, parce qu'on est particulièrement...
Belle.
Ouais.
C'était pas ça que tu voulais dire.
On a les cheveux qui brillent, bleus. Non. On aura un coquelicot.
Non, et ça, c'est pas une
sur
blague.
Sur la table, et ça, c'est pas une blague. On aura vraiment un coquelicot et rouge. J'ai vraiment des chaussettes roses aussi.
Ah oui.
On sait jamais.
Le coquelicot est une fleur longue et rouge.
Voilà. On l'aura avec nous pour que vous nous. Puis vous pouvez toujours dire Calibre, Calibre.
Où êtes-vous ?
Et on sera content de vous voir et de boire des coups avec vous.
En vrai, on sera repérable aussi parce qu'on sera un groupe, en fait. Donc,
voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est une petite invitation parce que peut-être que vous nous écoutez et que nous, on ne sait pas que vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer.
Voilà. Alors, en attendant, oui, donc on rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez nous joindre là ce soir, c'est 04 76 09 09 09. Et bien là, on avait envie de faire une petite... Là, c'est une émission patchwork. Hein, donc, on a préparé des petites chroniques avec Marina.
Voilà,
et entrecoupées de musique. Et là, on avait un peu envie de parler d'un article, en fait, qu'on a lu dans le dernier numéro des Cahiers pédagogiques. Donc c'est une revue en fait qui est assez spécialisée en fait à destination des professionnels de l'enseignement, on va dire plutôt éducation nationale. Et du coup
ils ont fait un numéro spécial sexisme.
Ouais, en fait ils ont fait un numéro spécial qui s'appelle Filles et garçons à l'école. Et il y a quelques articles qui sont assez intéressants là-dedans, notamment qui globalement rappellent, par exemple, les discriminations qui sont subies à l'école, et en particulier, quelles sont les dynamiques et les rapports de violence qu'il peut y avoir entre filles et gars à l'école, qui rappellent un peu les grandes tendances aussi, que c'est surtout les garçons qui sont auteurs de violence vis-à-vis des filles et vis-à-vis des garçons aussi. Ce qui est peut-être intéressant là à préciser, c'est que... Alors, je crois le chiffre, ça doit être 70% des auteurs de violences sont les garçons et 50% des victimes sont les garçons aussi. Donc, autant la violence subie est assez partagée, autant les violences exercées, c'est plutôt l'apanage des garçons. Bon, ça, on ne découvre pas forcément quelque chose de nouveau, là. Ça analyse. C'est quelque chose qui perdure ensuite. Donc, voilà.
Ça analyse aussi un peu les inégalités dans l'enseignement. Comment les instits vont plutôt valoriser les petits garçons pour certaines matières. Il y a un article aussi sur le sport et la mixité. Enfin, ouais, y a quand même des petits sujets de réflexion assez intéressants. Mais toi, tu voulais nous parler d'un sujet spécifique.
Mais d'ailleurs aussi, les enseignants sont aussi auteurs de violences. Enfin, ces violences-là sont répertoriées aussi. En tout cas, il y a un article qui a particulièrement attiré notre attention. C'est justement dans un numéro qui est consacré, comme le titre l'indique, à garçons et filles à l'école. Là, il y a un article qui parle des élèves trans à l'école et qui remet en question justement le titre même de ce numéro, en fait, où l'auteur dit justement, il fait un peu un clin d'œil en disant « Tiens, moi, je parle des élèves trans à l'école des filles et des garçons, comme on dit tout le temps ». Et là, c'est intéressant de regarder plus particulièrement voilà, les conditions d'existence en fait, de ces personnes dans l'institution qu'est l'école, qui est quand même une usine dans laquelle on passe toutes et tous, hein, à peu près. Et la place de ces élèves, en fait, elle est particulière, et notamment dans ce qu'on appelle la bicatégorisation, donc le fait de définir les individus en tant que garçons ou en tant que filles, quand tu es dans des questionnements d'identité ou dans des processus de changement, en tout cas d'identité ou de comment tu te définis comme fille ou garçon, et ben c'est pas évident. Et c'est assez intéressant cet article, non seulement parce qu'il est écrit par un enseignant qui est lui-même trans, en fait, depuis pas mal d'années, et qui raconte à la fois son vécu d'élève, mais aussi son vécu d'enseignant, en fait, dans cette institution-là, où à chaque rentrée, ben, par exemple, son nom et son identité, elle est féminine, et en fait, son apparence est masculine, par exemple, et il se fait appeler par un prénom masculin, etc. Et du coup, il y a déjà ça. Mmh. Et après, voilà, il raconte un peu ses observations, il fait témoigner des élèves qui racontent comment ils vivent ce truc-là, avec plein de petites anecdotes qui sont éclairantes, en fait, sur ce sujet-là, sur tout simplement comment pendant des années, tu sais même pas où est-ce que tu vas aux chiottes, en fait, à la récré, parce que les filles, elles te virent de là où tu vas, et les garçons aussi. Et y a plein de témoignages comme ça, bon, qui sont un peu tristes, hein, quand même, de gens qui disent, bah, moi, voilà, pendant 15 ans, je me suis arrangée pour pas aller aux toilettes à l'école, quoi. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Enfin, voilà. Et ou alors, carrément, voilà, des humiliations, des violences qui sont subies, évidemment, et aussi pas mal de la part des enseignants, quoi. Qui te font passer soit d'un suivi psychologique, ou qui vont te poser plein de questions, ou remettre en question ton identité qui n'est pas tout à fait... je ne parle pas assez près du micro. C'est bon. Enfin, voilà. Et en fait, je trouvais intéressant, par exemple, de rappeler que dans cet article, il reprécise que, par exemple, 21% des personnes transsexuelles ont arrêté leurs études à cause de la transphobie. Alors, non pas à cause de leur vécu de trans, mais à cause des conséquences de leur coming out ou des soupçons, en fait, de transgenrisme ou transsexualité. Et du coup, moi, je trouve... Enfin, ça me fait penser aussi à ce chiffre-là sur les tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels, enfin, etc., etc. Du coup, voilà, moi j'avais envie de dire, ben, cet article, il est... Je crois qu'on peut le trouver en ligne sur Internet. Il y a quelques articles des cahiers pédagogiques qui sont lisibles sur Internet.
Bah, s'ils le sont, on mettra le lien sur notre blog, enfin, sur notre site. Et on accueille Marjo au téléphone.
Ah oui, ok.
Peut-être tu voulais conclure.
Non. Allez voir cet article, il est intéressant. Ce numéro, globalement, est intéressant. Voilà, mais bonjour Marjo.
Ouais, salut.
Salut.
J'essaie de couper le son parce que maintenant je vous entends.
Ah, maintenant on t'entend bien en tout cas.
D'accord, je suis à l'antenne.
Oui, t'es à l'antenne.
D'accord, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices.
Salut.
Moi j'aime bien votre radio pour des tas de raisons. Bon, j'ai 35 ans, je suis homo, et j'aime bien votre ton, puis aussi, quand vous écrivez, vous mettez des E entre tirets, des fois.
Oui,
enfin,
c'est vrai.
Les jeunes qui font ça, j'aime bien, parce que ça, voilà, ça révolutionne un peu, c'est une façon de parler de la différence des genres, tout en étant inscrit dans la culture, quoi, le texte, par exemple, qui est une culture.
Mm-mm.
D'accord. Ouais.
Voilà, bon, mais sinon, ça c'est pourquoi j'aime bien, entre autres. Et moi, alors je suis garçon dans le quai depuis longtemps. Et ouais. J'ai lu un article dans l'IB du 24 juin sur Ocean, une chanteuse
ouais.
qui est homo et qui dit que la façon qu'on a, nous les homos, d'être un peu garçon manqué. Ou bien de s'habiller de manière décalée. Bon, c'est quelque chose, je pense qu'on peut... Enfin, qu'on sait que ça existe, quoi. Et elle dit, revendiquer quelque chose de décalé et de visible était la seule façon d'exister. Et en fait, moi, je m'interroge là-dessus parce que depuis que j'ai un boulot sérieux, eh ben, je m'habille un peu mieux, fille, tout ça. Et ben, je me demande si c'est parce que j'ai plus besoin de revendiquer ou quoi. Vous en pensez quoi ?
Alors moi, j'ai besoin de te reposer des questions là sur ce que tu viens de dire parce que je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Alors déjà, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris entre ce que tu penses toi et ce que pense cette chanteuse dont j'ai pas non plus très bien compris le nom.
Ocean, elle s'appelle.
D'accord. Est-ce que c'est elle qui dit que nous, les homosexuels, on a tendance à s'habiller de façon plus masculine ?
Non, ça c'est moi. Non, pas très masculine. Mais il y a quand même pas mal de lesbiennes qui sont garçons manqués.
D'accord.
Sans aller, moi je me suis, une fois on m'appelait Marsu, j'aimais bien parce que c'était un peu mixte. Hein, donc, bon, mais j'ai pas...
Toi, c'est une identité que t'aimes bien d'être un peu garçon manqué.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, on peut le voir comme ça.
Et alors je me permets de te poser une question aussi, parce que dans la culture lesbienne, on appelle parfois les lesbiennes un peu masculines des butch. Est-ce que toi tu te reconnais comme butch ?
Oh, si je mets un blouson en cuir, ouais, on peut dire. Ouais.
Ok.
Faut peut-être expliquer ce que ça veut dire butch.
Bah, c'est la façon dont on peut désigner dans la culture lesbienne des lesbiennes d'allure masculine.
Très masculine.
Très masculine.
Oui, un peu, voilà, blouson cuir, mais c'est pas ce qu'on appelle les camionneuses qui sont plutôt assez baraquées et souvent les cheveux vraiment courts, quoi. Alors que la butch, elle a quelque chose quand même d'androgyne.
Bah, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'on pourrait demander à toutes les lesbiennes, chacune à sa conception de comment est une camionneuse, comment est une butch, et tout, tu vois, c'est ses rapports au beau et tout.
Pardon.
Mais ok, c'était pas le sujet que tu voulais aborder, c'était un peu une curiosité de ma part, aussi pour se mettre au clair sur les termes et les définitions, quoi.
Ouais, tout à fait.
Du coup, toi, tu voulais rebondir un peu sur l'article que t'as lu dans Libé. Et moi, c'est pareil.
Elle dit ça, est-ce que c'est pour... Enfin, moi, ce que je comprends, c'est est-ce que c'est pour revendiquer et pour essayer d'exister dans sa différence, ce que j'ai ressenti comme besoin, hein. Ouais. Et auquel cas, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je vais plus du tout dans le milieu, j'ai pas. Je suis toujours aussi transparente sur mon homosexualité, j'en parle à mon entretien d'embauche, j'en parle.
Ah ouais ?
Je suis pas très militante, mais si je dois placer quelque part mon mari ou ma femme, je dirais ma femme.
Ouais.
Je dis que je me marie et puis je dis elle s'appelle Fabienne, quoi.
D'accord. Donc tu es visible, quoi. Tu es out, comme on dit.
Oui.
Mais tu te poses la question de est-ce que cette façon de s'habiller, de montrer par des codes vestimentaires ou physiques le fait qu'on est lesbienne, par exemple, et ben, le fait de ne plus le faire, tu te demandes si c'est que tu as moins besoin de te revendiquer ou si c'est que tu as plus besoin d'être un peu plus passe-partout pour que ça passe au boulot.
Non, ça va peut-être avec le fait d'être... Déjà, la première question, c'est est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ? Est-ce que on s'habille comme ça parce qu'on veut revendiquer ou est-ce qu'on s'habille comme ça parce qu'on est comme ça ? Et auquel cas, il faut essayer d'être soi-même et de se sentir bien. Bon, des fois, je m'habille très féminine, enfin, en fille, je vais dire, et je suis pas à l'aise. Mais des fois, je trouve des jupes sympas qui font que je suis fille et que je suis à l'aise.
Bah, moi, je trouve que c'est un questionnement intéressant. Je l'élargirai un petit peu parce que, par exemple, moi, je suis lesbienne et je suis très féminine. Enfin, je suis souvent, j'aime bien m'habiller très féminine. Et pourtant, j'aime bien. Je peux vouloir que ce soit bien clair que je suis lesbienne.
Ouais.
Alors, c'est bien que je trouve d'autres stratégies pour le dire que c'est juste le fait d'avoir des cheveux courts ou d'utiliser des codes visuels, tu vois.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être visible, beaucoup plus.
Avec cette
génération, moi je m'en rends compte parce que j'ai une sœur qui a votre âge. Et
parce que t'as quel âge ?
Moi j'ai 35 ans.
D'accord, donc tu trouves qu'on n'est pas de la même génération.
Les jeunes de 20 ans, je trouve que 20-25...
Ouais, bah moi j'en ai 31. Ah ouais.
Bon, mais d'accord, en tout cas toi tu as l'impression qu'aujourd'hui c'est plus simple pour les jeunes que pour toi quand t'avais 20 ans.
Moi j'ai trouvé, ouais. c'était plus. Il y a eu la mode de s'embrasser entre filles, de dire qu'on est lesbienne. Ça, c'était après. Moi, j'étais grande déjà.
Ouais.
Bon, en tant que lesbienne, la première fois que j'ai couché, j'avais 20 ans. Et ça faisait 5 ans que j'étais tombée amoureuse d'une fille et que je voulais sortir avec des filles. Et je sortais qu'avec des garçons parce que c'est tout ce que je pouvais faire, quoi.
En tout cas, moi, je me permets une petite parenthèse, là. Dans le cadre d'un boulot, on va dire, je côtoie pas mal de jeunes qui ont entre, on va dire, 16 et 19 ans.
Ouais.
Et moi, j'ai la sensation, depuis que je travaille avec des jeunes, ça fait 13 ans maintenant, que l'homophobie dans les représentations, elle a vraiment pas bougé. Enfin... Elle est encore hyper présente, quoi. Alors, l'homophobie...
C'est vrai qu'on entend des choses. Hein. C'est vrai qu'on entend toujours des choses pas agréables.
On entend des trucs pas agréables, mais enfin, il y a des vraies violences qui sont subies. Moi, je travaille dans le milieu scolaire. Enfin, je veux dire, le soupçon d'homosexualité du côté des garçons, par exemple, c'est source de violence hallucinante, quoi.
C'est violent pour eux ou c'est violent dans la forme de...
C'est violent verbalement, c'est violent, enfin, ils subissent des brimades, des violences physiques, de l'exclusion, enfin, tout, quoi.
Mais pour autant, moi, je pense que c'est... De toute façon, c'est compliqué à estimer le degré d'homophobie de la société aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans. Je pense qu'il y a des évolutions dans les opinions publiques. On voit par rapport à la question du mariage, justement, et tout. Allô ?
Toute violence verbale est punie par la loi aujourd'hui, sur l'homosexualité.
Ouais. Oui, bah, rien qu'au niveau de l'encadrement législatif, l'homophobie est plus punie aujourd'hui que... Enfin, bien sûr qu'il y a des évolutions. Après, je pense que ce que j'essaye de dire à Emma, c'est que ça ne veut pas dire que tout est super simple pour les jeunes actuellement, quoi. Il y a toujours beaucoup d'homophobie.
Oui, voire même, je ne suis pas sûre que ça soit plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Enfin, ouais.
Je ne sais pas comment on mesure ça.
Ouais, moi aussi, je ne sais pas. Mais bon, enfin, je sais pas, peut-être que toi, en fait,
moi,
dans ton vécu, en tout cas, tu repères une différence.
Ben, je trouve qu'ils en parlent plus facilement entre eux.
Ouais.
Ouais, avec moi, que ce que moi, je pouvais en parler autour de moi. Je pouvais pas en parler. Vous en parlez vachement, vous. Et même avec les hétéros et les bi. Non ?
Nous, tu veux dire l'équipe Calibre ou...
Moi, par exemple, qui ai 29 ans, au lycée, je n'ai jamais... Moi, avant d'arriver dans une plus grande ville et de rencontrer effectivement des lesbiennes et des PD, je n'avais jamais entendu le mot lesbienne, je pense, dans ma ville. Je ne savais même pas s'il y en avait, tu vois. C'était dans les films.
Ouais.
Enfin, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est très difficile de faire des généralités. Peut-être aussi, c'est pas la même chose si tu habites... à Paris ou si t'habites
à Nevers,
par exemple, ça suffit. Ou dans un petit bled paumé au fond de la Creuse, c'est pas pareil si t'es dans une c'est pas pareil selon la famille où t'es. Bon.
Ouais, parce que pour autant tu peux habiter à Paris et avoir des parents, on va dire. Pas très ouvert d'esprit, mais ça existera pas non plus dans l'univers mental, dans les possibles. Enfin, bon, ouais, après voilà. Enfin, peut-être que là, c'est un peu je sais pas comment dire, une discussion où chacun et chacune a son vécu là-dessus et son regard. Et du coup, moi, j'ai pas envie de remettre en question le tien, tu vois. Enfin,
non, mais on peut.
Mais effectivement, moi, en tout cas, à la différence de toi, je suis pas sûre de constater. Enfin, tu vois, j'ai à peu près le même âge que toi. Je suis pas sûre d'avoir vu des différences sur, par exemple, le degré d'homophobie que je pouvais constater il y a 10 ans ou 12 ans quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, tu vois. Enfin,
ouais.
Voilà. Mais. Bon.
Bon, en même temps, non mais c'est compliqué là, j'ai l'impression qu'on vient de te dire ouais, ce que tu penses c'est pas vrai en fait, si toi c'est ce que tu observes et si c'est l'impression que t'as, je pense que ça vient sûrement pas de nulle part et peut-être qu'il y a des changements.
Ok, pour dire que selon l'environnement, c'est pas facile parce que déjà quand t'as quelqu'un dans ta famille qui est homo, c'est plus facile.
Ouais, ça c'est clair.
Par exemple, moi, je l'ai dit à 15 ans à ma mère, elle m'a dit oh, bon, écoute, tu seras plus heureuse si t'es hétéro parce que c'est la norme et que c'est plus facile, mais si t'es homo et que t'es heureuse, je serai heureuse pour toi.
Ce qui est déjà une réaction pas super. Forcément habituelle. Hein.
Non, super, ouais.
Ouais.
Donc après, le plus gros du boulot, ça a été de m'assumer et de me connaître. Parce que les rares fois où où on a pu faire des trucs homophobes devant moi, j'y suis allée franco, quoi. Et j'ai même prévenu tout ça en m'affichant naturellement et facilement homo. Donc les gens, ils me connaissent pendant 2 heures dans une soirée, puis ils apprennent que je suis homo, bon bah ils me connaissent, ou alors des gens de la famille qui me connaissent, et puis bon bah un jour ils apprennent que je suis homo, bah ils me connaissent donc ils m'aiment. Donc ça passe. Souvent le fait de l'assumer ouvertement, je pense que c'est ça passe plus facilement.
Ouais.
Voilà pour mon expérience, quoi.
Ouais. Et par exemple, justement, je me demandais tout à l'heure, tu disais comme ça, moi de toute façon, à l'entretien d'embauche, je le dis clairement. Ça, je suis assez curieuse de savoir comment.
Alors, j'ai dit. Je sais plus. Je l'ai calé comme ça entre. Je rénove une maison avec mon amie et je vais marier avec elle cet été. Un truc comme ça.
D'accord, ouais. Et t'as pas perçu de différence
Non, pas de tic physique, pas de changement.
Pas un petit sourcil qui devient...
Il ne s'est pas enfui en courant, en faisant « Ah, une lesbienne !»
Mais non, franchement, bon, j'ai senti, si tu veux, que le truc était passé, quoi. Enfin, qu'ils avaient bien entendu la chose.
Ouais.
Et depuis, bah, c'est selon les gens aussi...
Finalement, t'as été embauchée ?
Bien sûr. Ça se passe très bien, j'ai été confirmée dans mon CDI suite à la période d'essai. Et maintenant, voilà, si c'est quelqu'un à qui j'ai jamais trop parlé et qui ne sait pas, je ne vais pas dire ma femme ou ma copine. De toute façon, au boulot, je ne le dis pas à ma femme, ça c'est clair. Je le dis très rarement.
Tu dis quoi ?
Je dis mon ami, si je veux que ce soit mixte, si c'est la première fois que j'en parle. Et après, je vais dire elle ou...
Ouais. Et du coup, pourquoi tu ne le dis pas ?
Pourquoi je dis pas ma femme ?
Au boulot, ouais.
Oh, ma femme, c'est quand même très, très, très connoté, quoi, dans la bouche d'une fille.
Oh. Oui, non, mais... Oui, et puis c'est connoté, de façon, de manière générale, ma femme.
Ouais, c'est vrai. On n'est pas encore mariés, hein. Peut-être, je sais pas. Ah.
Mais toi, du coup, ton hypothèse, c'est que plus on assume les choses, plus elles sont légitimées aux yeux des gens, et ça passe, et on est accepté tel qu'on est, etc., etc.
Ouais.
D'accord. Mais alors ça, c'est... Bah, d'une part, moi, j'ai envie de te dire, c'est courageux. Enfin, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, pouvoir effectivement assumer de manière plus ou moins publique ses choix, les justifier, parce que ça veut dire ça aussi, des fois.
Personne ne te demande jamais pourquoi.
Hein. Ouais.
Je me balade
pas directement.
Avec ma copine main dans la main, en famille, entre amis ou quoi. Personne ne va me dire pourquoi vous sortez ensemble, quoi.
Ouais. Oui, mais vu la réaction de ta mère que tu racontais tout à l'heure, j'ai l'impression que ta famille, ça va, quoi.
En fait, de toute façon, je trouve ça toujours compliqué, parce qu'à la fois, je trouve ça très agréable d'entendre ce que tu racontes. Je trouve que c'est un témoignage positif, et que les témoignages positifs, ça donne de la force, et que ça fait un truc de « waouh, ça
existe,
ça marche, il y a des gouines qui sont fortes, qui sont fières, et qui vivent leur vie, et on peut vivre ». Ça veut dire qu'on peut... Moi, j'imagine des jeunes lesbiennes nous écouter ce soir et se dire « waouh, ça veut dire c'est bon, quoi, je vais pouvoir grandir comme ça et être ce que j'ai envie d'être ». Et ça, je trouve ça hyper important. Ça, ouais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que dire ça, ça invalide les vécus d'homophobie qui existent malheureusement réellement encore, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, parce que je pense que ça existe vraiment, la discrimination dans le milieu du travail pour des raisons d'homosexualité.
Ouais.
Alors tu vois, c'est ça que... Je pense que c'est pour expliquer un peu aussi nos réactions, où à la fois c'est pas qu'on veut te contredire, mais on va toujours un peu mesurer ce que tu dis. Je pense que c'est pour ne pas invalider des vécus d'homophobie qui sont réels, quoi. Et l'homophobie qui existe encore réellement, j'en suis sûre, dans la société, on en a des... Enfin, je veux dire, les témoignages des SOS homophobie, ils existent, les rapports, tu vois.
Non, il y a discrimination, je suis d'accord.
Voilà.
Envers les femmes aussi, en général. Et puis envers toutes les minorités, quoi. Et le fait, je sais pas.
Mais en fait, moi, au-delà de ça, de vouloir encore une fois peut-être redonner de la place, enfin en tout cas revisibiliser ces histoires de violence et de discrimination. C'est plus aussi, pour moi, j'ai envie de dire, une histoire de stratégie. Toi, ce que j'entends, c'est que dans ton vécu et dans les milieux, on va dire, ou les activités que tu as décidé d'investir, tu fais ces choix-là et en fait, ça marche pour toi. Et moi, j'ai envie de dire, ouais, encore une fois, c'est super. Enfin, tu vois, ça donne de la force, ça fait écho à des gens, j'espère. Mais aussi d'un autre côté, vu que c'est une histoire de stratégie, moi je pense des fois la stratégie du camouflage ou du non-dit ou du flou, c'est aussi une stratégie valable en fait, parce que il y a des contextes où c'est juste pas possible en fait de dire tous tes choix ou de dire. Que tu es lesbienne, enfin j'en sais rien, tu vois, que tu, je sais pas, tu as deux amoureux, enfin je sais pas, tu vois, des choix de vie qui sont un peu comme ça à la main.
Mais ça, c'est sûr que c'est sûr que tu l'as déjà vécu. Je pense qu'on l'a toutes fait de pas tout dire le temps.
Oui, il y a des
contextes. Ouais, mais du coup, c'est pour dire. Enfin,
la chance d'avoir des contextes favorables, quoi.
Ouais. Et que des fois, ce truc-là de plus on assume, plus ça va être facile. Moi je suis pas sûre, quoi, parce que des fois on se jette à l'eau et puis on se prend un bon vieux retour de vague aussi,
enfin, ouais, mais je pourrais
des fois c'est une évaluation du contexte aussi et de ce qui va être favorable ou pas.
Oui, tout à fait, et puis on peut se tromper et se dire ok, je le ferai plus, quoi.
Ouais, c'est clair.
Quand je suis sortie avec quelqu'un dans le cadre du boulot, bon, je le ferai plus.
Ah bon? Ça, mais c'est... pourquoi?
Non, nos erreurs nous enrichissent. Et j'aime bien aussi votre radio parce que voilà, vous luttez contre les discriminations. Et moi, en tant que minorité d'une minorité, je revendique.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis minorité d'une minorité?
En tant que lesbienne, je me considère dans une minorité.
Ouais.
Si j'étais noire ou handicapée.
D'accord.
Je sais pas si je vais choquer des gens. Je vais vous laisser un peu de temps d'antenne pour les d'autres appels.
Écoute, oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir à notre petite discussion sur les stratégies
de visibilisation.
Voilà. Et merci d'avoir appelé.
Ouais, merci de ton appel. Et puis on te repasse Maud. Okay.
Tac.
Voilà.
Ciao, bonne soirée.
Et nous, on va écouter. C'est quoi le
On va écouter The Pipette avec Your Kisses Are Wasted on Me. Vous êtes à l'écoute de Calibre, l'émission de Libre Antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et nous avons Julie en ligne.
Salut Julie.
Salut, bonjour.
Bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène à l'antenne de Calibre ?
Eh bien, il y a quelques mois, vous avez fait une émission sur la grosseur et vous avez parlé d'un petit livre et je voulais vous en lire un extrait.
Ah, super.
C'est quoi comme livre ?
C'est « Le journal d'une grosse qui réfléchit » de Françoise Leclerc aux éditions La Maronis.
Ah, très bien. Nous t'écoutons.
Du coup, c'est un petit extrait sur l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, ce qui est censé, c'est la taille par le poids au carré, ou quelque chose dans ce goût-là, qui est censé déterminer si on est ou non en surpoids. Du coup, elle dit « À mon avis, l'épidémie d'obésité n'est pas entièrement imputable à la malbouffe. Je suis prête à parier que mettre sa balance à la poubelle et son inquiétude par-dessus serait plus efficace pour réguler son poids que la pesée quotidienne et le contrôle méticuleux des calories. » Le pouvoir de nos croyances est beaucoup plus puissant que l'on l'imagine. On sait que les placebos, la croyance que l'on va guérir, peuvent nous guérir. Dès lors, ignorer que la certitude d'être malade rend malade, c'est manquer d'imagination. L'épidémie d'obésité a commencé lorsque ce facteur de risque a pris le statut de maladie, mortelle de surcroît. Alors que personne ne meurt d'obésité, on meurt éventuellement de maladie qu'elle est censée favoriser. Ce qui est un peu différent. Et puis quand on sait que les variations cycliques de poids résultant des régimes répétés diminuent l'espérance de vie, cela aide à relativiser. Certains chercheurs commencent à penser que c'est la pratique répétée de régimes qui est responsable des maux imputés à l'obésité. Ce changement de vocabulaire, facteur de risque, maladie, épidémie mondiale, a été opéré en vue de favoriser la mise sur l'agenda politique de la lutte contre l'obésité. Jean-Pierre Poulain explique par exemple comment en variant la valeur de l'IMC, définissant le surpoids, passant d'au-delà de 27,6 pour les hommes et de 27,3 pour les femmes, à 25 pour tous sans distinction de sexe, d'âge et de type anthropologique, l'OMS a réussi à augmenter de 35 millions le nombre d'Américains en surpoids en une seule nuit. Il montre très efficacement les tenants et les aboutissements de la médicalisation de l'obésité. Loin de l'objectivité médicale, on découvre les raisons politiques et économiques qui ont construit l'approche idéologique actuelle de la grosseur, c'est-à-dire de nos croyances sociales. Voilà.
Ok. ça donne envie de le relire parce que je trouve que c'est assez dense quand même.
J'ai lu trop vite.
Non, t'as super bien lu, c'est pas le problème.
Bah non, mais tu sais, en fait, c'est la différence entre quelque chose que t'as sous les yeux et puis que t'entends. Et effectivement, ça vaudrait le coup de s'y replonger.
Mais moi, du coup, ça me donne envie de te demander qu'est-ce que dans ce passage tu voudrais souligner. Enfin, peut-être de reformuler un peu l'idée que tu trouves importante dans ce passage que t'as choisi.
Bah, moi, ce que je trouve fou, c'est que du coup, le passage, il explique que... Bon, du coup, elle parle de la croyance et du fait que l'obésité a été transformée d'un facteur à risque à une maladie, puis à une épidémie, dans un truc toujours plus grave, et où, au final, pour justifier cette théorie-là, ils ont trouvé le moyen de, en quelques heures, c'est-à-dire d'un jour sur l'autre, de baisser complètement les échelles par rapport auxquelles c'était compté, et donc ça a fait basculer 35 millions de personnes...
De la case pas obèse à la case obèse.
C'est ça, tout à fait. C'est quand même un peu fou, quoi.
Toi, c'est ça qui te touche particulièrement, c'est comment on crée un phénomène social.
Oui.
Par une manipulation subtile de certains critères, de certains facteurs,
indicateurs. Comment on décide que telle population est malade pour telle et telle raison.
Et puis le caractère péjoratif en fait qu'il y a derrière ça. Ouais.
Mais oui, moi, je vais me permettre de poser un peu une question, me faire l'avocat du diable, je ne sais pas comment dire, mais moi, j'ai l'impression que c'est un sujet assez sensible, cette question de l'obésité, ou en tout cas, où il y a beaucoup de préjugés et tout. Et je crois entendre ma mère ou tout un tas de gens là, dans ma tête qui me disent « Non, mais quand même, oui, c'est dangereux pour la santé d'être trop grosse.
Bah, » Moi, j'ai l'impression que... Ce qui est de plus en plus révélé par des études qui sont plus indépendantes en ce moment-là, c'est c'est que ce qui est plutôt dangereux, c'est les régimes à répétition que font les gros pour lutter contre leur grosseur. Et qui effectivement fragilisent le cœur, impliquent tout un tas de maladies plutôt dangereuses. Mais ce qui est aussi extrêmement dangereux, c'est... Enfin, ce qui est aussi extrêmement impressionnant, c'est le taux de mortalité qu'il y a à l'issue des opérations pour un pontage d'estomac, pour mettre un anneau à l'estomac.
Ah oui.
Pour réduire la capacité à manger.
Ça, c'est trash aussi. Hein.
Mais c'est, en fait, l'effet de cet anneau, pour être bien d'accord, c'est de couper la faim, c'est ça ?
C'est de réduire la capacité de l'estomac et donc de provoquer la satiété plus vite.
Oui, c'est ça.
La faim, ça fait que quand tu manges, tu as moins faim après, plus rapidement.
Et ça, c'est des opérations qui sont hyper risquées, c'est ça ?
Bah, y a un taux de mortalité d'une dizaine de pourcents, je crois, un tout petit peu moins, 8% peut-être. Ouais. Alors que la plupart du temps, on explique aux personnes dites obèses que quand elles doivent se faire opérer, que leur obésité est un risque pour une anesthésie générale, que quand même c'est un peu dangereux, qu'il faut qu'elles perdent du poids avant de pouvoir accéder aux soins, etc. quoi.
Ah, ça me fait penser, parce que j'ai lu le livre dont tu fais la pub, là, et à un moment donné, il y a un truc dedans dont elle parle aussi, c'est le rapport au médecin. Et elle dit qu'il faut toujours devancer le médecin, parce que sinon, il va toujours croire que ce que tu as, c'est à cause du fait que tu sois grosse.
Ben, ouais.
Et elle dit ce truc, je crois, de... Ah, maintenant, quand je vais voir le médecin, je fais, bon, docteur, ok, je suis grosse, mais surtout, je viens vous voir parce que j'ai une angine. Ben, comme si le médecin, il allait lui dire, mais vous avez une angine, non, mais c'est parce que vous êtes trop grosse.
Bah oui, ça arrive, hein. Ils expliquent que moi il n'y a pas longtemps j'entendais une ado qui devait avoir peut-être 15-16 ans qui attendait le bus et qui expliquait à sa copine que son médecin lui avait expliqué que si elle avait plus mal que les autres pendant ses règles, c'est parce qu'elle était trop grosse. Parce que du coup ça déréglait tout son système, tout son corps quoi. Alors que moi ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux ce genre d'explication quoi.
Ouais.
Mais comme tout ce qui est articulaire, etc., ce sera toujours ramené à une histoire de poids. Voilà, quoi.
Mais du coup, il me semble aussi que... Est-ce qu'on peut imaginer que le fait que ce soit... Je vais faire un parallèle. Tout à l'heure, on parlait de lesbianisme et des discriminations lesbophobes. Je sais qu'il y a plein de lesbiennes qui ont du mal à aller chez la gynéco parce que c'est chiant d'aller chez la gynéco et d'expliquer que t'es gouine et que nanana. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le fait que des personnes grosses iraient plus difficilement chez le médecin parce que juste c'est trop chiant d'aller chez le médecin, ce qui pourrait aussi expliquer qu'elles sont en mauvaise santé ou je sais pas.
Bah, c'est un peu ce qu'elle explique aussi dans ce livre, c'est qu'elle dit que du coup les personnes grosses sont souvent démédicalisées parce que où vont, je sais plus, il y a une statistique, mais vont quand même beaucoup moins chez le médecin que les personnes pas grosses parce que ça implique. Ça implique de s'entendre tout le temps rabâcher ça et d'avoir toujours une espèce de rappel à l'ordre, mais où au final c'est quand même hallucinant de voir que les gens gros vont moins chez le médecin mais sont censés avoir plus de problèmes de santé que les autres. Je vois pas trop comment ils arrivent à quantifier ça.
Ouais. Peut-être il y a des enquêtes statistiques aussi à partir de questionnaires, je sais pas.
Oui, peut-être.
Ouais, en tout cas, toi, enfin, ce que j'entends dans ton propos, et tu vas me dire si c'est ça, c'est la proposition de réfléchir à comment, derrière des conseils, voire des pressions, à suivre ces indications médicales contre le fait d'être gros ou je sais pas quoi, c'est plus une norme sociale que des vraies raisons médicales.
Bah oui,
enfin, c'est des arguments qui viennent nourrir une certaine norme sociale et comment on considère que les corps doivent être, etc., plutôt que des vraies raisons médicales et des vrais dangers de santé autour de la grosseur ou de l'obésité.
Oui, mais en plus, ce que je crois, c'est que du coup, c'est aussi le rappel à cette norme et ce que les gens mettent en œuvre pour rentrer dans la norme qui est vraiment qui est dangereux au final, quoi. Qui les rend malades.
Ouais, ouais.
Plus que le fait de faire 80 ou 100 kilos ou 150, quoi.
Eh ben, je trouve ça intéressant d'entendre ça. Je pense que c'est assez rare comme parole. Mmh. Est-ce que tu peux redire ce livre, l'édition et tout
C'est Françoise Leclerc, Journal d'une grosse qui réfléchit aux éditions La Maronie et il coûte 10 euros.
D'accord.
C'est un petit livre qui se lit bien.
Ouais, d'accord. Que tu nous conseilles, quoi.
Tout à fait.
Et moi, quand même, j'avais une dernière question. Est-ce que tu aurais des choses à conseiller aussi pour des personnes qui nous écouteraient la soirée et qui se diraient « Ah, mais ouais, moi, j'en ai trop marre de cette discrimination, de cette oppression, qu'on me fasse chier parce que je suis trop gros ou trop grosse et tout. » Est-ce qu'il y a des trucs, d'autres livres, des sites internet ou, je sais pas, des trucs que tu conseillerais ?
Eh ben, bon, bah, on va faire notre pub, hein. Du coup, il y a un blog qui existe qui s'appelle grosse.wordpress.com qui a été créé lors d'une rencontre grosse sur laquelle il y a des extraits déjà qui ont été repris pendant l'émission de Calibre spécial grosseur. Du coup, c'est grosse.wordpress.com et grosse au pluriel. Et sinon, je pense... Alors des livres, c'est assez difficile à trouver, mais après, je pense qu'il faut surtout arriver à trouver d'autres copains, copines grosses et de juste en parler avec eux et d'être entouré et de juste de pouvoir peut-être un peu assumer et apprendre un peu à s'en foutre.
D'accord. Et justement, par rapport à ça, moi, j'aurais aussi une petite question ou remarque, parce que j'étais en train de me dire, tiens, et si on pensait différemment, qu'est-ce qu'on pourrait donner aussi comme conseil ou piste de réflexion aux personnes qui nous écoutent, dans les cas de personnes, par exemple, qui... vivent réellement mal, je sais pas, un truc de poids, ou en tout cas l'image, soit l'image de leur corps, soit le vécu de leur corps qui serait lié au fait d'être gros ou en surpoids, enfin je sais pas trop comment qualifier ça. Et moi je lisais un petit papier qu'on me faisait tourner là qui disait non au régime magazine, enfin tu vois. Moi, je m'interroge là, au-delà du conseil de comment on peut faire pour réfléchir à quel est le poids de la norme sociale sur nous, sur nos corps, etc., et comment on peut apprendre à s'en foutre, comme tu dis, mais aussi comment on peut faire des choses qui nous feraient du bien si jamais notre désir, c'est de maigrir, par exemple, enfin, ou de perdre du poids. Enfin, est-ce que toi, tu aurais des trucs à dire par rapport à ça ?
Bah, je sais pas, en fait, moi j'ai l'impression que c'est une chose de s'alimenter sainement, après on va pas forcément perdre du poids, quoi. J'ai l'impression que des recettes pour perdre du poids, il y en a pas vraiment, juste les gens ils font le poids qu'ils font. Enfin, on peut imaginer que peut-être effectivement les gens s'alimentant mieux ou je sais pas quoi, ils perdraient 5 ou 10 kilos, mais au final, pour les gens vraiment gros, je suis pas sûre que ça change... En fait, il faut arriver à trouver des moyens d'être bien dans son corps, en fait, et
c'est
d'arriver
ça.
À se sentir bien avec le poids qu'on fait, etc., avec l'activité physique qu'on pratique ou pas, et de plus que de chercher... Enfin, moi, j'ai l'impression que chercher à maigrir, c'est difficile. Et puis, il y a cette histoire qu'il y a 98% des régimes où le poids est repris, voire... plus encore dans les 2 ans, quoi.
Oui, c'était, enfin, justement, je pensais un peu à tous ces trucs là et je me disais ça sera bien qu'on rappelle ça, et puis que effectivement peut-être il y a un avertissement vraiment fort aussi derrière tout ce qu'on peut lire à longueur d'émissions, j'imagine, télé ou de magazines qui conseillent des trucs hallucinants et là pour le coup vraiment dangereux pour la santé en termes de régime ou comment perdre du poids en 8 jours, comment perdre 10 kilos, enfin, ou 30 kilos pour être belle en maillot, quoi.
Ouais. C'est la saison, hein.
C'est tout à fait ça.
Bon, mais de toute façon, c'est quand même une grande discussion, ça, que je trouve pas simple, comment faire pour être bien dans sa peau, qu'on soit grosse ou qu'on corresponde pas aux normes pour d'autres raisons. Voilà, c'est un chemin que je sais aussi, qui est pas simple. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en parler, là, pour ce qui concerne la question de la grosseur, j'ai l'impression que faire de la visibilité positive... Ouais. Et je trouve ce livre-là dont tu nous as lu un extrait participe à ça, quoi.
Oui, c'est sûr.
Bon.
En tout cas, merci beaucoup de ton appel et puis on va te repasser Maud au téléphone.
Ok, merci.
Bonne soirée. Ciao, ciao.
Bonne soirée, au revoir.
Et là, on écoute Actitude, Maria Marta, Hijo Mio.
Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza.
¿Qué cosa es esa?
Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico, estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico, estilo diurético laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte.
Recuerdo salvo ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído, que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería
en cualquier parte del hemisferio. La vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones, y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar.
Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención!
Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar, porque ante el intento nos pueden destrozar.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Ay, las brasas me queman, no sé si voy a aguantar.
Vous écoutez toujours Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet. Vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 tous les jeudis de 20h à 21h.
Et ouais, vous avez vu ce soir, il y a eu deux appels et c'est vraiment agréable. Puis j'ai envie de dire, c'est vraiment la preuve que c'est possible d'appeler pour raconter un truc, pour lire un passage de livre qui nous a plu. Pour dire, ah, mais je me suis posé cette question-là, puis finalement, c'est en discutant avec nous que des idées, elles viennent et tout, donc faut pas hésiter, quoi. Mmh. Bon, non, mais parce que je suis contente, j'ai trouvé que c'était riche ce soir aussi d'échanges et de discussions et tout. Bon, alors on vous dit, vous pouvez appeler. Là, dans deux minutes,
on rend l'antenne.
On rend l'antenne et puis on va aller boire des coups. Vous, si vous habitez à Grenoble, vous pouvez venir nous rejoindre.
Oui, d'ailleurs, on va refaire cette invitation. Mais avant, oui, je vais quand même profiter de la minute qui nous reste quand même pour vous dire que j'ai été faire un tour sur le blog qui s'appelle Vide Meuf, là,
ah ouais,
qui a été créé par Oser le Féminisme. Bon, on peut en penser ce qu'on veut de Oser le Féminisme. D'ailleurs,
ah, c'est elle qu'on fait le blog ?
Oui. Ah, bon, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Oser le Féminisme. J'ai pas le temps, tant pis. Mais en tout cas, voilà, je me suis quand même baladée un peu sur ce blog. Il y a plein... En fait, l'idée de ce blog, c'est de raconter un peu des anecdotes de ce qu'on pourrait qualifier du sexisme ordinaire, c'est-à-dire les remarques, attitudes, analyses, comportements, etc., sexistes, mais qui sont pas, enfin, qui passent comme ça, en fait, qui sont pas non plus genre se faire casser la gueule ou des violences directes, brutales, mais qui sont des violences comme ça du quotidien. Et parmi celles que j'ai lues hier, il y en a une quand même que j'ai retenue et que j'ai envie de vous faire partager, et je ne ferai pas de commentaires derrière, je pense que ça se passe de commentaires. C'est une lycéenne qui raconte, je crois qu'elle a 17 ans, et elle raconte que son prof de, je crois, sciences nat ou sciences en tout cas, vous savez, au début de l'année, on vous fait remplir des fiches sur qui vous êtes, qui sont vos parents et tout ça. Et à la case, il avait préparé un petit tableau et il y avait la profession, du coup, il y avait d'un côté profession du père et à côté, il y avait profession de la mère si elle fait autre chose que d'être à la maison. Voilà, je no comment.
Ok. si vous avez envie de nous écrire à Calibre, vous pouvez nous écrire sur notre adresse email qui est k-libre@poivron.org. Je suis jamais sûre de la différence. Et le site, parce qu'on a un site, oui, sur lequel vous pouvez télécharger nos anciennes émissions, voir les références des sujets dont on parle pendant les émissions et tout. Et le site, c'est donc
k-libre@poivron.org. Voilà. C'est le petit arrobase, en fait, qui disparaît.
C'est ça.
Voilà.
Voilà.
Du coup, ouais, voilà, vous pouvez télécharger les émissions, les écouter après, dans le tram, tout ça, dans votre voiture. Hein. Et donc, on relance l'invitation ?
Ah oui, alors, non, plusieurs, oui, choses à dire. Donc, ce soir, si vous habitez à Grenoble, vous pouvez venir boire un coup avec nous à l'ouest, qui est à côté des Halles Sainte-Claire. Là, bah, il est 9h. Vers 9h30, on y sera. Et voilà, on va boire des coups. Il fait beau et tout, c'est chouette. Et puis, on voulait vous dire aussi pour cet été, là, bon, peut-être que jeudi prochain, il y aura une émission. Peut-être pas. Je pense qu'on l'annoncera sur le site, justement, en début de semaine prochaine. Et en tout cas, après, c'est les vacances de Calibre. On se retrouve le 15 septembre.
Oui.
C'est ça.
Le jeudi 15 septembre, en direct.
En direct, toujours sur la même radio, toujours de 20h à 21h. Mais pendant l'été, si vous allumez Radio Kaléidoscope entre 20h et 21h le jeudi, vous tomberez sur des magnifiques petites rediffusions best-of.
De Calibre.
De Calibre.
Mmh.
Voilà.
Oui, parce qu'on dit il y aura pas d'émissions, mais si, il y aura des émissions, mais pas en direct en fait. C'est une petite compile de.
Voilà. Si vous appelez, ça sonnera dans le vide, quoi.
Voilà.
On sera pas là pour vous répondre. Appelez le 15 septembre. Bon allez, on vous laisse. Bonne soirée.
Bonne soirée. À bientôt.
À bientôt. Ciao.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.